Après un message comme ça, j'ai pas trop envie de rajouter quoi que ce soit, mais on va quand même continuer notre programme. Mais je crois que ça vaut la peine de réfléchir en écoutant Tom Bloomer. Il est passé en l'église il y a quelques années, et lui qui est habitué à des grands auditoires, il était un peu surpris d'avoir une soixantaine de personnes, mais il nous avait dit à la sortie, je suis impressionné par l'écoute dans votre église. C'était encourageant. Il a été écouté. Je me souviens avoir, tout au début, où ils ont fait ces temps de repentance, je me souviens, André avait mis une cassette dans la voiture, des chants de jeunesse en mission, et j'ai entendu ce chant. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom » est... Venant des églises de Pentecôte, j'avais jamais entendu parler de repentance du peuple de Dieu. C'était individuel, c'était quand on avait quelque chose à demander pardon à Dieu, etc. Et ça m'avait beaucoup surpris, mais j'avais ressenti tellement de vérité. J'avais repris les passages bibliques et ça m'avait beaucoup touchée. Et c'est vrai que on a tout le temps besoin de revenir vers le Seigneur et de se repentir. Parce que c'est un peu comme cette histoire que je vous ai déjà racontée. C'est un pasteur indien qui aimait bien marcher le long de la mer pour prier. Et donc il avait les yeux fermés puisque c'était une grande bande de sable. C'était pas un problème. Et apparemment c'est des zones un petit peu comme à Deauville où la mer est très très loin. Et il y avait un vent terrible. Donc il avait rentré sa tête dans son col et il continuait à marcher les yeux fermés. Et il s'est aperçu au bout d'un moment qu'il avait lentement dévié pendant ses 2 ou 3 heures de marche. Et il se retrouvait dans l'autre sens, force de s'opposer au vent. Et d'un seul coup, il a senti que le vent était derrière lui. Et mais il avait fait demi-tour. Et je crois que c'est un petit peu la même chose. Quand on est chrétien, on a des habitudes. Et puis, on se décale un tout petit peu. Et ça ne se sent pas, tout petit peu à la fois. Et ça se sent pas, c'est l'histoire de la grenouille, dans l'eau, vous connaissez. L'eau chauffe tout doucement, elle sort pas, elle se sent bien jusqu'au moment où elle se fait bouillir. Et c'est un peu ça. Je crois que périodiquement, on a besoin de ce retour à Dieu. Même si on n'a pas l'impression d'avoir fait des tas d'horreurs, mais on se détache. On peut se détacher très doucement. Je pense qu'on serait dans un pays totalement idolâtre, etc., enfin d'une autre manière, enfin un peu comme autrefois, peut-être on s'en rendrait plus compte, mais là, bon, on a un pays de culture chrétienne, même si on la perd un petit peu, donc on s'en rend un petit peu moins compte. Donc voilà, je pense que on va prier sur tout ce qui a été dit et que le Seigneur touche nos cœurs. Donc pour revenir à David, et on va recouper certaines choses qu'on a entendues d'ailleurs ce matin, on en était au point où David venait d'être reconnu roi à Hébron, sur la tribu de Juda, donc sud d'Israël, mais pas encore sur l'ensemble d'Israël. Et pourtant Dieu l'avait appelé alors qu'il était un tout jeune berger, donc ça fait à peu près 30 ans, vous imaginez, il a à peu près 30 ans. Il avait été appelé par Dieu à peut-être une quinzaine d'années. Donc c'est long, 15 ans d'attente. Par 3 fois, il a dû faire face au même type de tentation. C'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Et la tentation était simple, recevoir la royauté. Alors vous allez me dire, non, puisque ça lui était promis par Dieu. Eh oui. Mais la tentation, c'était de la recevoir des mains d'hommes méchants, violents et sanguinaires. Alors, je résume rapidement. Le premier, c'était un Amalécite, étranger, des gens ennemis d'Israël, qui avaient autrefois attaqué Israël par derrière, quand il était en état de faiblesse. Et cet homme prétendait avoir achevé le roi Saül. Et en fait, il mentait visiblement, puisqu'il y a 2 autres textes qui disent tout à fait autre chose, dans les chroniques, etc. Et il voulait lui remettre la couronne royale qu'il avait chipée sur le champ de bataille. Bien sûr, David n'a pas accepté. La deuxième tentation, c'est Joab, son chef militaire, neveu de David, homme de guerre, qui ne semble pas du tout comprendre la repentance d'Abner, qui était le chef militaire de Saül. Et il ne croit pas à la repentance d'Abner, il pense que c'est un espion. Et il va assassiner Abner par traîtrise, après sa repentance, après son retour vers David, après qu'il ait accepté le plan de Dieu. Et ça, c'est quand même dur. Bien sûr, la tentation pour David aurait été de dire, bah, ça y est, Saül est mort, son chef militaire est mort, je peux y aller, le roi Ishbosheth, il n'est pas bien méchant, on en viendra à bout. Non, il n'a pas accepté non plus. Par contre, il n'a pas pu tuer Joab parce que c'était son chef militaire et il avait toute l'armée à sa botte. Donc il a été sage, mais il a quand même confiance à la vengeance de Dieu. En plus, troisième tentation, Baana et Rekab, deux chefs de bande, très très cruels et en plus lâches, parce que pour tuer un homme qui dormait pendant sa sieste, pour avoir énormément de courage, et en plus ils se mettaient à deux pour le faire. Et là c'est pareil, ces hommes lui apportent la tête du roi Ishbosheth, donc le dernier fils de Saül qui pouvait régner, puisque Mephibosheth était handicapé, il ne pouvait pas régner. Et il n'a pas accepté. Pourtant, c'était là, maintenant, le terrain était dégagé, Saül est mort, son chef militaire s'était repenti, mais il a été assassiné. Maintenant, le fils de Saül, Ishbosheth, est mort. Donc, le terrain est libre. Il ne se réjouit pas du tout, parce que ce n'est pas comme ça qu'il voyait le plan de Dieu. Ce n'est pas des mains des méchants, des traîtres, des sanguinaires, qui va accepter la couronne. Et ça, j'ai forcément mis en parallèle ces tentations de David avec... ce qui s'est passé avec Jésus. Vous vous souvenez, dans sa tentation dans le désert, il n'a pas cédé à Satan. Parce que Satan lui offrait les royaumes du monde. Donc vous trouverez ça dans Matthieu 4. Si seulement il veut se prosterner devant lui. Jésus n'a pas cédé. Pourtant, il était affaibli. Hein. Et Jésus démontre par là que le règne de Dieu, ce qu'on appelle le royaume de Dieu, ne s'établit pas par des actes magiques, par du spectaculaire, par de l'idolâtrie, ou un marchandage avec l'ennemi, le méchant. Mais il s'établit par la croix, le pardon, la grâce, la repentance et le respect de la parole de Dieu. Et là, Jésus n'a pas cédé. C'est miraculeux parce que on aurait vraiment pu penser que voilà, pour l'essentiel, c'est d'avoir le royaume, de l'établir. Non, l'essentiel, c'était d'obéir à Dieu. Et David sait que la promesse de Dieu, elle est vraie. Et moi, ce que je trouve admirable chez David, plus j'étudie sa vie, malgré tous ces défauts humains qu'il pouvait avoir à côté, c'est cette fidélité que la promesse de Dieu se réalisera en son temps. Une des choses les plus difficiles dans la vie chrétienne, je trouve, c'est d'attendre. On sait que Dieu va exaucer quelque part, il nous a fait des promesses, etc. Mais il faut attendre. Le temps de Dieu. Alors ça, c'est dur. Et souvent, je suis sûre que vous êtes comme moi, vous dites à Dieu, « Seigneur, nous, on est là pour 80, 100 ans maximum. Alors tu sais, pour nous, un an, ça compte. Toi, tu vis dans l'éternité. Hein, » on a envie de dire ça au Seigneur, on se prive pas parfois. Hein. C'est pas bien méchant, mais c'est vrai, hein. C'est dur pour nous. Alors David ne peut pas défaire ce que ces hommes ont fait. Il ne peut pas redonner la vie à ceux qui ont été assassinés. Mais il refuse absolument de leur être redevable. Que ce soit la Malécie, tous les deux chefs de bande, il les fait tuer. Et pour Joab, il prononce une malédiction. Il remet ça entre les mains de Dieu. Et il va jeûner, pleurer. Donc il est profondément sincère. Je pense qu'il était profondément écœuré par la traîtrise et la méchanceté de ces hommes. Même si c'était quelque chose qui l'arrangeait. Et on peut se poser la question parfois, est-ce que ce qui compte pour nous, c'est que ça nous arrange ou c'est que les lois de Dieu soient respectées? On a souvent des dilemmes comme ça dans la vie. On reverra ça un peu plus tard. Le peuple, lui, comprend que David est innocent. Quand il le voit prier, jeûner, déchirer ses vêtements, etc., le peuple a compris qu'il n'était pas complice de ces trois actions. Il est innocent du sang versé et la nouvelle se répand. Il n'y avait pas besoin de médias, hein. On n'avait pas besoin de tout ce qu'on a maintenant. Le téléphone arabe fonctionnait très très bien, d'un village à l'autre, on se passait les nouvelles. Les commerçants, qui étaient souvent itinérants, passaient les messages et très vite le peuple est au courant que David était dans la détresse devant les assassinats. Et ça touche leur cœur. Parce que bon, le peuple aimait quand même Saül. Hein. Ils sont touchés aussi parce qu'ils voient que David respecte la maison du roi précédent. Il respecte sa famille, sa tribu en quelque sorte. malgré tout ce qu'il a subi, les poursuites, les injustices, etc. Donc, la réputation de David est sauve et le peuple apprécie sa droiture. Et là encore, là où l'ennemi voulait lui donner le pouvoir royal sur tout Israël par le mensonge, la violence et le meurtre et la traîtrise, David décide, lui, de s'appuyer sur Dieu et de bien faire. Et ça a marché. Il va punir les hommes violents, il va compter sur sa sincérité, sur le respect de la maison royale, respect de l'onction de Dieu, et il reste dans une optique de pardon. C'est Dieu qui l'a appelé. C'est pour ça que c'est tellement important l'appel. Je pense, autrefois, on parlait de vocation, c'est la même chose. Quand un médecin, autrefois, avait vraiment la vocation, ça faisait la différence avec le fonctionnaire, encore aujourd'hui d'ailleurs. Quand je cherche un nouveau médecin, parfois ça arrive, mon médecin a pris sa retraite, j'ai cherché quelqu'un qui ressentait cette vocation, pas un fonctionnaire. J'ai eu du mal, ça m'a pris plus d'un an à trouver. Mais voilà, je crois que la vocation, ça change la vie d'une personne, ça change ses rapports humains. Quelqu'un qui fait quelque chose par vocation, il est enthousiaste, même quand c'est difficile. Quelqu'un qui le fait juste pour ne pas mourir de faim, c'est bien, mais ce n'est pas la même chose. Et c'est pour ça, pour David, c'était clair, Dieu m'a appelé. C'est Dieu qui a fait les promesses, donc c'est lui qui doit donner la royauté. Ce n'est pas par la violence, le mensonge, la méchanceté. Et vous savez, on aime bien ce verset qui dit « ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit ». Et je crois que David était dans cette optique. Il doit être reconnu par le peuple, faire une alliance avec les chefs du peuple, et que ce soit une soumission de la part du peuple, une reconnaissance volontaire, pas par la force. Et ça, vous savez, nous, on est bien gentils de lire ça aujourd'hui, mais imaginez, il y a 3000 ans, c'était insensé, tout simplement. Puisque c'était une coutume que quand on régnait, on tuait ses ennemis, la première chose qu'on faisait. C'est ce qu'a fait Hitler, c'est ce qu'ont fait d'autres tyrans. C'est normal, quoi. Il faut que la voie soit libre, donc on prend le pouvoir et on tue les opposants. Et c'était la règle, et c'était... Bon, alors nous, maintenant, ça nous choque, même au temps d'Hitler, ça a choqué. Mais il y a 3000 ans, c'était comme ça. Et David était tellement proche du cœur de Dieu qu'il pouvait aller à... Il pouvait aller à l'envers, il pouvait aller à contre-courant. Être le sel de la terre, comme disait Tom Bloomer tout à l'heure. Jésus dit à Pilate, c'est Jean 18, 36, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mes gens auraient combattu. Mais sa royauté n'est pas de ce monde. » Et là, il faut que nous, chrétiens, on se rappelle toujours de ça. Toujours. La royauté de Jésus ne s'impose pas par la violence, par la force, par le mensonge, la traîtrise, etc. Le royaume de Dieu s'établit par la puissance du Saint-Esprit. Et je pense aussi, comme a dit tout à l'heure Tom Bloomer, par la repentance, par le retour vers le Seigneur. Vous savez, dans cette parabole des mines, il y a ce verset, c'est Luc 19, 14. « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » C'était un peu le langage des pharisiens. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. On veut bien de la religion, mais que Jésus, le Fils de Dieu, règne sur nous. Oh. Et comme Jésus, d'ailleurs, David va être reconnu, non seulement sur une tribu, d'un petit nombre de gens au début, Jésus a commencé avec 12 disciples, mais il va être reconnu sur l'ensemble d'Israël. Il a refusé de s'imposer par la traîtrise et la violence, par la force militaire, et il attend pour établir concrètement son règne d'être connu de tout cœur. Et c'est le verset, de tout cœur, par l'ensemble du peuple d'Israël. Il ne s'est pas imposé. Si c'est la volonté de Dieu, ça se réalisera. Et il a raison. De même, Jésus établira un jour son règne sur tous les hommes, et pas par contrainte, mais c'est son amour qui gagnera les hommes. Donc voilà, ça c'était pour résumer ce qu'on a fait la semaine dernière. On va lire le chapitre 5, versets 1 à 5. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent « Nous sommes tes os et ta chair. » Ah ah ! Déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toujours toi, voyez les souvenirs reviennent, qui menait Israël en campagne et qui l'en ramenait. Le Seigneur t'a dit « C'est toi qui feras paître Israël, mon peuple. » Ils sont gonflés quand même. Ils se souvenaient des promesses de Dieu, mais ils n'en tenaient pas compte. Combien de fois est-ce que nous, on se souvient des promesses de Dieu et on n'en tient pas compte? Je me suis posé la question. Le Seigneur t'a dit, c'est toi qui feras paître Israël, mon peuple, c'est toi qui seras chef sur Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron et le roi David conclut une alliance pour eux à Hébron devant le Seigneur. Ils conférèrent l'onction à David pour qu'il soit roi sur Israël. David avait 30 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 40 ans. À Hébron, sur Juda, 7 ans et 6 mois. À Jérusalem, 33 ans. Curieusement, 33 ans, ça ne vous rappelle rien? On dit que David est un type de Jésus, mais c'est vrai, il y a beaucoup de choses comme ça. Sur tout Israël et Juda. Alors, par contre, il y a un petit truc qui est bien à rajouter. Vous savez, il y a un truc chouette. Quand on veut un complément d'information sur les rois d'Israël, on a un livre génial qui s'appelle « Les Chroniques ». Et qui raconte, alors sous un angle différent, et c'est ça qui, pour moi, est très important, hein, c'est comme les quatre évangiles, ils ne disent pas exactement la même chose. Et parfois, mes élèves disaient, madame, ça se contredit la Bible. Ça se complète. Hein. Je leur disais toujours, quand on voit un accident de voiture au milieu d'un carrefour, celui qui est sur cette route ou l'autre, il ne va pas exactement voir la même chose. Mais du coup, on aura une image complète. Et c'est un petit peu ce qui se passe avec les rois et les chroniques. Voilà. Alors, c'est 1 Chronique 12, 38. C'est d'un même cœur que tout... C'est ça qui est important. D'un même cœur que tout le reste d'Israël investit David de la royauté. Ils furent là 3 jours avec David, mangeant et buvant, car leurs frères leur avaient préparé des vivres. Et même ceux qui habitaient près d'eux jusqu'à Issachar, Zabulon, Nephtali, donc les différentes tribus du Nord, apportaient de la nourriture sur les ânes, les chameaux, sur des mulets, sur des bœufs, de quoi manger, de la farine, des gâteaux de figues sèches, des gâteaux de raisins secs, du vin, de l'huile, du gros bétail, du petit bétail en quantité, car Israël était dans la joie. Quand on fait la volonté de Dieu, on fait la fête et on est dans la joie. Hein ? Et c'est ça que souvent on oublie, on a l'impression que la volonté de Dieu, ça va être terrible. Combien de fois des gens m'ont dit, des jeunes particulièrement, oh, je ne sais pas ce que je veux faire plus tard, mais je pense que ça va être... Dieu va vouloir tout le contraire de ce que j'aime. Quelle drôle d'idée. Ça peut arriver. Seulement, en général, quand c'est tout le contraire, c'est parce que Dieu sait qu'au fond, on va aimer ça. Hein? Mais Dieu n'est pas sadique comme ça. Il va nous donner tout ce qu'on n'aime pas. Non. Peut-être il va nous envoyer sur une voie un petit peu imprévue, mais après quelques années, on va se dire, waouh, qu'est-ce que j'aime ce que je fais. Ah, voilà. Eh oui. Donc, n'allez pas imaginer que Dieu nous donne tout le contraire, surtout pas. La volonté de Dieu provoque la joie et la fête. Ça, c'est capital. Sinon, c'est quoi ça, non ? Faut pas croire des bêtises. Vraiment, n'allez jamais croire que Dieu va vous donner tout le contraire de ce que vous voulez. Et s'il vous donne quelque chose qui au départ n'était pas prévu, c'est parce qu'il sait que ça va bien vous aller. Hein? Tu sais, ça arrive parfois quand on essaie des vêtements. Et si on est avec une amie ou la maman, ou ah, on, oh, mais ça m'ira pas, oh, c'est affreux, j'aime pas. Et puis, mais essaye quand même. Puis, oh, mais dis donc, qu'est-ce que je suis bien là-dedans. Hein? Ça vous est jamais arrivé? Ben voilà, c'est pareil avec le Seigneur. S'il vous pousse à essayer quelque chose d'autre, c'est pour quelque chose qui va vous plaire à la longue. Alors voilà la promesse de Dieu qui se réalise. Ça y est, hein, depuis qu'il a eu l'onction, donc on va compter une quinzaine d'années, il n'a eu que des embêtements. Et là, c'est un problème de la vie chrétienne. Hein. Alors là, j'ai pas de solution. Il y a des moments où on a des embêtements parce que c'est pas la volonté de Dieu. Et Dieu met des obstacles. Vous avez tous vécu ça. Et puis il y a des moments où les obstacles signifient qu'il faut persévérer et qu'on va avoir ce qu'on demande. Comment on peut savoir si les obstacles viennent de Dieu pour nous embêter, nous éviter un embêtement, ou si les obstacles, c'est simplement des épreuves pour nous faire grandir et mûrir? Bah écoute, demandez au Seigneur, j'ai pas la réponse. Eh oui, on n'a pas toutes les réponses. Mais il faut consulter le Seigneur. Et je trouve ça très délicat. Hein. Dans la vie, c'est pas évident. Mais le Seigneur répond à nos prières. Alors la promesse de Dieu se réalise sans contrainte. Vous avez remarqué, le peuple est content. Ils le reconnaissent volontiers, sans violence, parce que le temps de Dieu est arrivé. Les représentants de la totalité du peuple d'Israël, je pense qu'ils avaient été préparés, la Bible le dit d'ailleurs, par Abner, hein, qui avait dit, allez, je vais aller dans toutes les tribus et je vais leur dire que voilà, Dieu avait appelé David, il faut se soumettre à David. En tout cas, ils avaient été bien préparés. Ils viennent voir David, donc certainement des représentants, hein, parce que l'ensemble du peuple, ça aurait fait beaucoup. Et ils affirment d'abord leur lien du sang, vous avez remarqué, avec David. Tuer nos os et notre chair. Et vous savez que c'est important bibliquement. Parce que la règle dans Deutéronome 17, 15, c'était « Tu ne pourras pas avoir à ta tête un étranger qui ne soit pas ton frère. » Ah, donc c'était la chose première, « Tu es notre frère, en quelque sorte. Même sang, même os. » Et c'est un peu la même chose avec Jésus, hein. Parfaitement homme, parfaitement Dieu. Ils se souviennent d'un passé commun. Il avait été un grand chef militaire sous l'autorité du roi Saül, toujours à la tête des troupes. Un modèle de courage, et ce que les soldats avaient apprécié, c'est qu'il marchait devant eux. Ce n'était pas le chef qui les envoyait au casse-pipe, il marchait devant eux. Et vous vous souvenez avec Jonathan, on en a vu ça il y a 2 ou 3 ans, ils ont fait des petites opérations militaires, coup de poing là, qui étaient absolument incroyables, où ils ont gagné, parce qu'ils se confiaient en Dieu. Et les soldats appréciaient leur courage. Ils marchaient à la tête des troupes. Ils n'envoyaient pas les autres devant. Ils concluent une alliance devant le Seigneur. Enfin, ils citent la parole de Dieu avant. Cette fameuse parole de Samuel, de 1 Samuel 9,16. Alors là, moi, ça m'énerve. Ils la savaient par cœur, cette parole. Pourquoi ils ne l'ont pas utilisée avant? Pourquoi ils l'ont ignorée? Et vous savez, c'est un petit peu comme dans la repentance. Dieu nous dit des choses. Et puis, soit on les oublie, on n'en tient pas cas. Je ne sais pas ce qui se passe dans notre petite tête. Et pourtant, il nous a dit. Ces gens-là savaient. Ils n'avaient pas réagi. Saül était mort quand même depuis un moment. Ça aurait pu leur revenir. Et le cœur humain, tortueux par-dessus toute autre chose. Et donc, il conclut une alliance devant le Seigneur. C'est fort, c'est solennel. C'est un engagement mutuel, vous avez vu, hein, c'est vraiment très très fort. Et puis finalement, il lui confère l'onction royale, j'imagine que c'était les prêtres qui ont fait ça, c'est-à-dire le droit de gouverner par décret divin. Il est considéré comme le berger d'Israël, et à l'époque c'était un symbole pour la royauté, être le berger d'un peuple. Pas seulement chez les Juifs, paraît que c'était tout le Moyen-Orient. C'est bien l'histoire. Il a 30 ans. Rappelez-vous Jésus, qui a commencé son ministère aussi à 30 ans. Et il va régner encore pendant 40 ans. Ça ne va pas être facile. Les héros de la Bible sont des humains, avec des hauts et des bas. Enfin, 1 Chronique 12-39 ajoute quelque chose d'important. C'est d'un même cœur. On l'a dit tout à l'heure. C'est un énorme banquet qui va durer 3 jours pour célébrer l'alliance. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Un banquet qui célèbre une alliance, les noces de l'agneau. Hein, ça préfigure beaucoup de choses, hein, c'est l'histoire de David. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais voilà. Alors, on va lire chapitre 5, verset 6. Le roi... Alors là, il n'y a pas de transition dans ce texte. David s'empare de Jérusalem, boum, il vient de recevoir l'onction. Et le roi marcha avec ses hommes contre Jérusalem, contre les Jébusites qui habitaient le pays. Ils dirent à David, « Tu n'entreras pas ici, car même les aveugles et les boiteux te repousseront. » Ce qui voulait dire, « David n'entrera pas ici. » Mais David prit la forteresse de Sion, c'est-à-dire la ville de David. Alors, je ne vais pas lire la suite, parce qu'en fait, c'est un passage extrêmement obscur au niveau traduction. Je pense qu'on n'a pas le temps de rentrer là-dedans. Les théologiens ont trouvé quelques solutions, mais bon, ce n'est pas très très important. C'est sur la tactique de prise de la ville par des souterrains qui amenaient l'eau. Mais bon, différents archéologues se renvoient un petit peu la balle, donc on ne va pas rentrer là-dedans. Donc on va s'arrêter là. Pourquoi attaquer Jérusalem ? Il est roi, la première chose qu'il fait, pouf, il va prendre la ville de Jérusalem. Et les Jébusites qui habitaient le pays. Alors d'abord parce que c'est un territoire qui avait été donné, ils étaient supposés le prendre au moment de la prise de Canaan. C'est un territoire qui avait été conquis en partie par les hommes de Juda. Vous voyez ça dans Juges 1:8. Et il avait été reperdu. Il faut dire que les Jébusites s'y accrochaient depuis longtemps. On voit ça dans Juges 1:26. C'était une cité très ancienne, une forteresse. imprenable. C'était déjà une ville royale au temps d'Abraham, vous vous souvenez? Genèse 14, verset 18. La ville se trouvait dans une enclave cananéenne qui risquait d'isoler, parce qu'il y avait Juda et Benjamin, il y avait Jérusalem, et après les autres tribus au nord. Et c'est une raison pour laquelle il fallait la prendre. Parce que sinon, il y aurait toujours eu cette enclave ennemie au plein milieu, ça aurait été problématique. La ville s'étendait principalement, il y en a d'autres, mais principalement sur deux collines. Sur une, il y avait la forteresse, et l'autre était un peu moins protégée. Prendre Jérusalem comme capitale avait plusieurs avantages. C'était un peu comme un terrain neutre, parce qu'il était juste à la frontière de Juda et Benjamin. Ah bah pourquoi ? Bah oui, parce que toute la maison de Saül venait de la tribu de Benjamin. David venait de la tribu de David. Et il a cherché, et là il avait beaucoup de sagesse, un endroit pour faire sa capitale qui soit proche de l'un comme de l'autre. Premier roi d'Israël, Saül, deuxième David. Il n'a pas cherché des complications, il a cherché à faire la paix. Et il a choisi un endroit qui se prêtait bien pour une tribu comme pour l'autre. Bien sûr, tout ça c'est humain, mais je crois qu'il y avait le plan de Dieu. Hein. On le voit là, Jérusalem a toujours été dans le plan de Dieu. C'était une forteresse naturelle qui dominait des profondes vallées, qui était effectivement très difficile à prendre. Les Jébusites se confiaient dans cette situation exceptionnelle de leur ville et de leur forteresse. Pour eux, elle était tellement imprenable que même si ses habitants et ses défenseurs étaient des boiteux, des invalides, ils auraient quand même eu le dessus. C'est ça que ça veut dire. Après, il y a d'autres, la fin du texte n'est pas très claire. Mais ils étaient sûrs d'eux. Mais vous avez vu, le texte n'y va pas par quatre chemins. David prit la ville, David prit la forteresse de Sion, c'est-à-dire la ville de David. Elle est devenue la ville de David. Donc c'est un point important dans l'histoire d'Israël. Je pense, combien de fois dans notre vie de chrétien, l'ennemi nous a nargués. Dans le domaine des études, je pense aux adolescents, hein, ça peut leur arriver, du travail, des projets de vie, des projets d'église. Vous savez comment ils procèdent ? Ça ne marchera pas, c'est imprenable, c'est une forteresse imprenable, tu ne pourras jamais y arriver. Travail, études, projets de toutes sortes, hein, il y a cette petite voix, ah, mais tu n'y arriveras pas, ah, c'est pas possible, ça sera bien trop dur. Tu ne décrocheras pas ce diplôme, tu ne décrocheras pas ce job, c'est pas pour toi. Hein, combien de fois on a vécu ça ? Vous avez vu David, ça ne l'a pas dérangé. Pourtant, il savait qu'elle était imprenable, la forteresse. Mais il savait aussi qu'il était dans le plan de Dieu. Et donc, quand on sait qu'on est appelé par Dieu, qu'on est dans le plan de Dieu, peu importe ce que l'ennemi va nous dire, on aura la victoire. Moi, je me souviens d'un moment un peu difficile. C'était un dimanche matin. On habitait dans les immeubles là-haut, à Aubergenville. Et ça faisait plusieurs mois qu'on cherchait un terrain pour avoir une maison. Comme on avait étudié tous les deux très tard, on n'avait pas énormément d'économies, on avait eu le temps d'économiser juste 2 ou 3 ans. Et on était allé voir une agence immobilière, là, je crois, à Épône. Elle existe toujours, je crois, d'ailleurs. Et on avait regardé quelques trucs. On ne pouvait pas. Et un dimanche matin, ça, c'est quand même dur, hein. Juste avant de partir au culte, à l'époque, on dirigeait le groupe de jeunes de l'église de Mantes et... L'agent immobilier nous téléphone en disant « Vous savez, avec votre budget, vous n'y arriverez jamais. » Sympa, hein, juste avant de partir au culte, ça vous plombe un peu, là. Mais Dieu avait des plans. Et puis, il a conduit les choses très miraculeusement. Ce n'est pas le but de le raconter aujourd'hui, mais vous savez, parfois, l'ennemi fait ça. « Ah, tu n'y arriveras pas. De toute façon, tu ne vas pas t'en sortir. Tu n'auras pas ton diplôme. » Non, non. Si c'est la volonté de Dieu, croyez-moi, si c'est le plan de Dieu, il agira et il ouvrira même des portes qui ne devraient pas s'ouvrir. Et ça, on l'a tous vécu, hein. Je suis sûre qu'on a tous des exemples où Dieu a ouvert des portes qui ne devaient pas s'ouvrir et qui s'étaient pas ouvertes pour d'autres. Moi, je me souviendrai toujours le jour où ma dentiste était en train de me soigner, elle parlait tout le temps. Elle était très gentille. Et elle me dit, ah, vous habitez au Coudray? Ah ben, moi, je le voulais, ce terrain. Ah bon? Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Oh bon, il n'était pas constructible, donc j'ai dû abandonner. Il a été rendu constructible, juste quand on a demandé. Quand Dieu veut quelque chose, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il le fera. Restons dans la foi. Et vous avez vu David, il ne s'est pas posé de questions, même si on s'est fichu de lui. Donc, oh, même des aveugles et des boiteux, il saurait défendre la ville, tellement elle est facile à défendre. Eh bien oui, c'est devenu la capitale. Et ça l'est encore. Quand même, hein, 3000 ans après. Elle est depuis 1948, enfin, pas, il y avait une moitié, maintenant il y a l'autre, redevenue la capitale. Vous savez, quand quelque chose tient au cœur de Dieu, même les années ne comptent pas. Même les années comptent pas. Ça, c'est frappant. C'est lui qui va l'appeler la ville de David. Alors, il y a deux passages qui suivent, on va passer dessus rapidement. Le roi de Tyr va offrir des cadeaux à David pour qu'il ait son palais. C'était la coutume, hein. Les rois devaient avoir un palais. Donc, il sacrifie à la coutume, David. Il n'a pas forcément raison, mais bon. Ça va, il va rentrer un petit peu en lui-même après pour se dire, mais au fait, est Dieu là-dedans ? Est-ce qu'il n'a pas besoin de sa maison ? On verra ça plus tard. Mais ce qui était important là, c'est de voir qu'il commençait à avoir de l'importance en tant que roi. Et il était reconnu, non seulement par son peuple, mais par les gens autour. Et je crois aussi que quand on est chrétien, notre travail, notre existence est reconnue aussi par les non-chrétiens. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à notre attitude avec les non-chrétiens. Et ce que j'aime énormément dans ce texte, alors là, oui, ça, c'était important. David sut ainsi que le Seigneur l'affermissait comme roi sur Israël, ok, c'est vrai, et qu'il élevait son règne. À cause de quoi ? Parce que David était un gentil garçon ? À cause d'Israël, son peuple. Dieu l'a affermi. Non pas parce que c'était le meilleur des bons hommes, non pas parce que voilà, il avait tenu bon, il avait persévéré, à cause d'Israël, son peuple. Dieu a toujours en vue le commun, le peuple de Dieu, dans son ensemble. Et c'est pour ça que quand parfois des églises connaissent des réveils, il faut toujours penser à cause de l'ensemble du peuple de Dieu, à cause de l'église avec un grand E. Et pas seulement à cause d'une église locale. C'est une bénédiction pour l'église avec un grand E. Ça m'a beaucoup plu. David sut que le Seigneur l'affermissait à cause d'Israël, son peuple. Il a une vue beaucoup plus large que nous. Nous, on est centrés sur notre personne, notre famille, notre église. Après, ça devient difficile, hein. Mais Dieu, lui, il a une vue plus large. C'est l'église avec un grand E, à cause d'Israël, son peuple. Et c'est incroyable que David avait déjà ce sentiment. Moi, je suis admirative. Après tout ce qu'il a enduré, moi, j'aurais dit à sa place, plutôt, Dieu élevait son règne parce que j'ai persévéré jusqu'au bout. Hein, vous voyez, la perspective n'est pas la même. Bon, alors évidemment, il va se conformer aussi à son siècle en ayant beaucoup de femmes et de concubines parce que, comme j'ai déjà expliqué, ça concluait des alliances politiques qui préservaient la paix avec tous les petits rois de droite et de gauche. On épousait la fille, donc il se retrouvait avec une quantité de femmes et de concubines. Je pense que quand on va voir la suite de son histoire, c'était pas une trouvaille. Mais là aussi, il a sacrifié aux coutumes de l'époque. Attention à nous aussi. Ah, mais tout le monde le fait. Ah, mais au boulot, c'est normal. Ah, mais. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de se repentir parfois. Parce que sans se rendre compte, on agit comme le monde. Et franchement, on ne se lève pas le matin en disant « je vais désobéir à Dieu ». Non, non, c'est simplement quelque chose qu'on fait parce que les gens autour de nous le font. Puis ça déteint, hein. Mettez un chiffon rouge dans votre machine de linge blanc. Un truc qui n'a jamais été lavé, vous allez voir. Ça déteint. Et c'est ce qui se passe. On vit au milieu de ce monde et voilà, il y a des choses qui déteignent et on ne le fait pas volontairement. Donc, je pense que c'est aussi ça l'utilité de la repentance. Ce n'est pas se creuser « qu'est-ce que j'ai bien pu faire comme péché ?» Ça, c'est le rôle de Dieu de nous montrer ce qu'on a fait de travers. Ce n'est pas le rôle ni des autres, ni même de soi-même parfois. Mais c'est vraiment dire « Seigneur, montre-moi ». Mais surtout, un bocal avec des tas de gens qui déteignent sur nous. Et on ne s'en rend pas compte. Et parfois, on va avoir les mêmes réactions. « Ouais, c'est pas juste. Ouais, bah parce que bah, tous nos amis disent ça. Parce qu'au travail, tout le monde le dit. Ouais, je vais me venger. » Voilà, c'est ça l'important. C'est David, Dans certains domaines, il a été fantastique. Et vous voyez, pour le palais, pour ses femmes, bah, il s'est conformé au siècle dans lequel il vivait. Ah oui, on est humain. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit faire la même chose. Au contraire, on va voir que par la suite de sa vie, bah, ça lui a bien créé des problèmes. Malheureusement, on ne peut pas continuer. J'avais un de mes textes favoris, donc je suis très triste de ne pas pouvoir le faire ce matin, parce que c'est le texte où il va avoir deux batailles au même endroit, avec les mêmes ennemis. Et il va avoir la sagesse de ne pas reproduire la même stratégie, pour une simple raison. Il a écouté Dieu. Et je voulais terminer mon message ce matin, mais on le prendra la semaine prochaine, sur la nécessité d'écouter Dieu, même quand tout semble simple, quand tout semble facile, où on a juste à reproduire quelque chose, apprendre à écouter Dieu. Et ça aussi, c'est une difficulté de la vie chrétienne. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ce n'est pas facile d'écouter Dieu. Ce n'est pas facile dans une situation donnée de dire « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ?» C'est tout un apprentissage. Et je pense que c'est... Je voulais terminer par la prière, même si on n'a pas fait le texte, on va prier quand même là-dessus. Seigneur, aide-nous à t'écouter. Aide-nous à ne pas nous conformer à la façon d'agir et de penser des gens qui nous entourent. Qu'on ne prenne pas la couleur de notre environnement, mais qu'on soit une source de renouvellement pour notre environnement. Qu'on soit le sel de la terre. Et ce n'est pas facile. À t'écouter et à entendre ce que tu veux nous dire. Tu sais, on a une oreille parfois bien fermée. Et même si on veut, parfois on a du mal. Seigneur, je te prie de venir à notre secours et aussi à chacun d'entre nous dans l'Église, chacun qui a des choix à faire. Seigneur, aide-nous à t'écouter. Aide-nous à entendre ce que tu veux nous dire. Ouvre nos oreilles, ouvre nos yeux. Et pitié de notre faiblesse humaine. Viens à notre secours, Seigneur, nous revenons vers toi. Amen.